Bienvenue dans Cahors Quartier Libre, une émission mensuelle sur la politique quartier de ville. Et nous allons mettre en valeur les associations qui œuvrent dans des quartiers que l'on dit pas forcément faciles. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de richesses de par des rencontres, de par ces associations qui agissent, et puis par les aventures et les histoires de ces habitants que nous allons rencontrer régulièrement au sein de ce magazine. Et la première émission, elle est consacrée à l'association RERTR. Alors pour cette première émission qui concerne la politique quartier de ville à Cahors, on est au quartier de Terre Rouge et on est avec l'association RERTR, j'espère que je l'ai bien dit, ça veut dire, et ben on va le savoir avec notamment Julien Bastide qui est son directeur. Bonjour Julien.
Bonjour.
RERTR, ça veut dire?
Donc c'est le réseau d'entraide et de relations Terre Rouge.
Bon, vous allez nous expliquer dans quelques instants l'histoire de cette association, parce qu'elle est là quand même depuis un petit moment. Et puis on va aussi parler accompagnement professionnel avec Céline Delsahu. Bonjour Céline.
Bonjour.
Accompagnatrice, c'est différent de formatrice?
Oui.
Quelle est la différence?
Alors la formatrice, bah, du coup, va transposer, à mon avis, une formation et apprendre une formation au public. Et nous, on va plus être dans un conseil du projet professionnel, mais aussi du conseil social et d'aider les gens, en fait, dans leurs difficultés au quotidien.
Alors, on va en parler dans quelques instants de cela, parce que c'est le but de cette émission, effectivement, c'est de comprendre quel est votre rôle, pourquoi vous faites partie de ce quartier, de cette politique de la ville. Alors, Julien, le directeur, justement, c'est quoi l'histoire, finalement, de l'association? Alors, RERTR, il faut que ça rentre dans la tête, parce qu'il y a quand même pas mal de R.
C'est un vrai travail de diction.
Ouais, c'est surtout ça. Ouais.
Non, l'association, effectivement, elle est née dans le quartier il y a déjà 32 ans. De ça, le 11 juin 1990 exactement. Elle est née de la volonté de femmes du quartier de développer leurs compétences et d'apprendre le français. Donc de ces deux volontés et en lien avec le centre social, il y a eu une création de structures agréées IAE, donc insertion par l'activité économique, dont l'objectif est seulement d'atteindre justement ces deux objectifs clairement énoncés par ces femmes-là. Donc à travers un chantier d'insertion cuisine, qui est un chantier historique de l'association, et un autre chantier aussi qui va être un atelier imprimerie, où on va, à travers l'imprimerie, à travers le support d'activité imprimerie, à apprendre le français, l'alphabet, entre autres.
Ce sont les deux activités de base, on va dire, qui ont été créées à l'époque et maintenant. Vous en avez combien d'activités? C'est ça qui est impressionnant d'ailleurs, parce que vous êtes diversifié.
Alors oui, mais toujours en gardant le même fil rouge, c'est-à-dire que l'association, elle est née de la volonté de développer ses compétences, d'acquérir une expérience professionnelle à travers un support d'activité et d'apprendre le français. Aujourd'hui, on s'aperçoit que 32 ans après, on reste sur un pôle insertion. Alors même si des activités support se sont développées, on a bien sûr l'activité cuisine qui est historique, mais en 2011, on a pu développer une activité approvisionnement de l'épicerie sociale et solidaire, qui est sur le quartier de Sainte-Valérie. En 2015, une activité éco-blanchisserie. Le fil rouge reste le même, hein. C'est à travers un atelier chantier d'insertion, être en capacité de mettre en situation du public en difficulté sur des supports d'activité. Donc, et ensuite, avoir un accompagnement socio-professionnel réalisé par des travailleurs sociaux professionnels. Et troisième pan de notre obligation, c'est mettre en place des formations adaptées pour ces publics-là. Et nous, on a un peu ce côté atypique, c'est-à-dire qu'on a un centre de formation en interne. Donc voilà comment on fait.
Alors, ce qui est impressionnant, c'est que là, on est en train de parler, on est en ce moment même dans les locaux de l'association. Vous êtes vraiment ancré en plein centre de Terre Rouge, vous êtes vraiment dans le quartier. La maison en elle-même, d'ailleurs, on ne penserait pas que que c'est une entreprise, mine de rien, parce que ça fonctionne comme une entreprise. Il y a des ouvriers, il y a des ateliers, on y vend des choses, il y a des prestations. Est-ce que c'est aussi un but justement de d'être intégré comme ça et de faire en sorte que ça passe nickel, que vous soyez discret, parce que vous êtes discret malgré tout ce que vous faites.
Oui, après ça fait, on a beau être discret, les gens nous connaissent, hein. Les gens du quartier nous connaissent très bien. On a d'ailleurs sur beaucoup de nos recrutements, c'est aujourd'hui beaucoup de bouche à oreille. Donc ça veut dire quand même qu'on a une action qui est reconnue depuis ce temps-là. Et bon, après, par rapport au fait qu'on ne soit pas forcément très très visible, il n'empêche qu'on reste un petit peu le petit voisin permanent où on vient apprendre le français, on vient acquérir des compétences à l'atelier cuisine, on rencontre des gens, on revient quand on a fini le parcours parce que on a gardé du lien avec cette maison, avec les gens qui travaillent dans cette maison-là. Donc ça n'a pas forcément une volonté affichée non plus de créer une entreprise avec du béton et
pas d'enseigne flashy et autre.
Non, je pense qu'on est là. Depuis 32 ans, on est là. On n'a pas besoin d'avoir une grande vitrine avec marqué RERTR en fluorescent.
Alors, voyons le côté, comment dirais-je, plus, je veux pas dire négatif, mais un peu plus soucieux en tout cas. Cette association a été créée il y a 32 ans et qu'elle existe encore, ça veut dire que bah, malheureusement, il y a encore du besoin alors au final.
Oui, alors je pense que Céline pourra un peu compléter ce que je vais dire, mais effectivement, hein, là, on a commencé avec juste l'atelier cuisine qui pouvait accueillir, ça a commencé je crois, à 8 salariés. Aujourd'hui, avec nos 3 activités d'insertion, on accueille 26 salariés en parcours d'insertion. Donc, on a sur le public, on a beaucoup de femmes isolées, femmes qui travaillent avec peu d'heures souvent et qui n'arrivent pas à arriver à cette 7e, 8e heure parce que bloquées. Des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui ont des difficultés sur l'apprentissage du français, sur la mobilité. Mais ça, je pense que Céline peut compléter ce panel.
Alors Céline, qui est le public qui vient et qui bénéficie justement de cet accompagnement par l'association RERTR ?
Alors comme le disait Julien, c'est essentiellement des gens qui ont peu d'expérience professionnelle, qui n'ont pas travaillé, parfois jamais.
Pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, c'est dû à parce qu'elles étaient mères de famille avant et qu'il y a eu un changement de vie
Alors en partie, il y a des gens qui viennent de l'étranger aussi. Voilà. Après, c'est des fois des familles avec 3-4 enfants, donc on travaille plus tardivement, on se met au travail plus tardivement, puisque la priorité d'abord c'est les enfants petits. C'est souvent des gens qui n'ont du coup pas de formation ici, sur le territoire. Donc, difficile de trouver de l'emploi. Pas de mobilité ou peu de mobilité. Et ici, dans le département que l'on a, c'est un peu compliqué si on n'a pas un véhicule et si on n'est pas mobile. Les bus, ça ne permet pas tout à fait tout de trouver du travail sur tout le territoire.
Alors, quel accompagnement vous leur faites alors ?
Alors l'accompagnement, en fait, on pourrait, pour le simplifier, le diviser en deux temps. En fait, on a un accompagnement social qui va permettre en fait de lever les obstacles à trouver de l'emploi, périphérique à l'emploi, je dirais, c'est-à-dire bah, toutes les situations sociales qui sont autour de la famille. Alors, on accueille une personne, une seule salariée, mais on prend en compte la famille dans sa globalité. C'est pour nous très important, en fait. C'est un environnement, et c'est cet environnement-là, en le stabilisant, en essayant de lever les différentes difficultés, alors que ça soit au niveau santé, que ça soit au niveau image, que ça soit au niveau familial, les soucis éducatifs, parfois. Tous ces soucis-là, même s'ils ne sont pas en lien direct avec le projet professionnel de la personne, vont paralyser l'idée de trouver un emploi, de s'inscrire dans une formation sur du long terme. Voilà. Et si tous ces obstacles ne sont pas levés, ben, on va mettre en péril le projet professionnel de la personne. Donc dans un premier temps, on essaie de lever tous ces obstacles sociaux. Alors selon les personnes, en fait, ça va durer plus ou moins de temps. Hein. Il y a des fois des gens qui sont moins éloignés du milieu de l'emploi ou en 3-4 mois, bon, on aura un peu balayé l'environnement global et on pourra passer au projet professionnel. Et puis d'autres, ça sera beaucoup, beaucoup plus long parce que parfois, des fractures qui relèvent de l'enfance, qui n'ont pas été réglées, qui vont demander parfois des accompagnements psychologiques qui n'ont pas été faits avant. Et ben, nous, on va essayer d'amener la personne vers ces accompagnements-là, même si nous-mêmes, on n'est pas en capacité. Hein. On fait pas forcément tout. L'accompagnement psychologique, ce sont des partenaires avec qui on va travailler et vers qui on va plutôt conduire la personne vers, vers ce type d'accompagnement.
Et donc, si je comprends bien, une personne qui arrive, vous fixez un premier délai qui est de quelques mois. Mais quoi qu'il arrive, si jamais cette personne n'est pas apte, selon vous, à intégrer effectivement le secteur professionnel, parce qu'elle a encore des lacunes qui ne sont pas forcément de sa faute, hein, elle est là justement pour les combler, donc au contraire, c'est même une force d'être ici, vous n'allez pas la mettre dehors en fait, vous la gardez le temps qu'il faut.
Voilà, c'est ça, en fait. Enfin, le temps qu'il faut. Avec une forme de limite, hein, ouais. On en a quand même 24 mois, c'est la limite, qui nous est donc imposée par l'État. Hein. Mais sinon, oui, on a la possibilité de prolonger les contrats pour mener à bien, et on se fixe à chaque nouveau contrat, parfois même au milieu du contrat, en intermédiaire, des objectifs. Voilà, d'accord. Qui vont pouvoir être des objectifs sociaux, donc, dont je vous parlais là, ou qui vont être des objectifs professionnels. Et ça, c'est la deuxième étape. Mais quand on se projette au niveau professionnel, c'est que déjà, on a bien stabilisé l'environnement social de la personne. Voilà. Et qu'elle-même l'a bien stabilisé. C'est surtout elle. Nous, on fait que accompagner.
Julien Bastide, j'imagine qu'au point de vue des postes, vous n'en créez pas à tort l'arigot comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre limité à chaque fois.
Oui, alors ça c'est un dialogue qu'on a avec l'État, puisque les contrats à durée déterminée d'insertion, on a une aide au poste par rapport à ces contrats-là, bon, qui nous amène des obligations dont j'ai parlé, une obligation d'accompagnement, de formation, et aujourd'hui on a 15 équivalents temps plein, donc qui sont réalisés par 26 salariés en parcours d'insertion sur nos 3 ateliers. Derrière ces parcours-là, comme j'ai dit, en fait, on va avoir, ils sont maillés d'accompagnement, de temps d'accompagnement, de temps de formation, et en fait, on utilise au maximum ces 2 ans-là de travail pour lever tous les freins et permettre un accès ou un retour à l'emploi pour les personnes qu'on accueille.
On parle aussi donc dans votre association RERTR d'alphabétisation et de lecture. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé dans ce quartier de Terre Rouge ?
Alors aujourd'hui, effectivement, on a une action dans le cadre du quartier politique de la ville, justement, même si on en a plusieurs, mais il y en a une, effectivement, qui est en lien avec l'alphabétisation et la lutte contre l'illettrisme. L'objectif, c'est de permettre toujours, c'est le même fil rouge que les chantiers d'insertion et le centre de formation, hein, ça reste comment on peut renforcer l'autonomie des personnes au quotidien. On s'aperçoit que quand on a du mal à comprendre ce qu'il y a écrit sur l'arrêt de bus, ça va être compliqué de partir du quartier de Terre Rouge, ou en tout cas ça va engendrer une certaine peur et on va se fixer des frontières qui n'existent pas forcément.
Qui est le quartier finalement, voilà. On va pas plus loin que...
Dans le quartier politique de la ville, il y a ville quand même. Ouais. Donc c'est savoir comment on peut permettre à ces personnes d'ouvrir les possibles et faire en sorte qu'elles puissent avoir confiance en elles quand elles vont au-delà, être en capacité de lire un tableau à double entrée, être en capacité de comprendre les consignes qui peuvent être importantes pour leur futur, hein. Donc être en capacité de signer un chèque, ça reste des choses qu'on fait au quotidien et qui participent à ça. Aujourd'hui, on le fait avec nos salariés, bien sûr, à travers les formations qu'on dispense, mais on le fait aussi avec les personnes résidentes du quartier politique de la ville.
Mais quand on a des ateliers comme blanchisserie, comme la cuisine, comme l'imprimerie, ça veut dire que forcément, on a une activité avec des clients. Parce qu'il faut vous imprimez pas dans le vide, si je puis dire. Vous n'allez pas laver des draps blancs juste pour leur apprendre à dire, et puis après vous allez les rouler par terre dans le gazon pour les relaver.
Bien vu, bien vu. Non, c'est pas ce style d'économie, même si elle est circulaire, c'est pas l'objectif. Non, on a aujourd'hui une vraie activité économique, donc à travers nos trois ateliers, on est certes un acteur avec un objectif social, mais on utilise des moyens économiques, c'est-à-dire que la gestion va être une gestion de TPE, PME classique, même si on a un objectif social. Donc on va pouvoir, à travers l'activité cuisine, proposer des prestations, repas froids, chauds, buffet, lunch, à proposer aux collectivités, entreprises, associations, particuliers aussi. Mmh. Et de la même manière, pour l'éco-blanchisserie, on va être sur de la location et l'entretien du linge pour des entreprises familiales, pour des centres d'hébergement. Donc aujourd'hui, l'association, c'est un acteur social, certes, par le biais de son objectif et de son projet associatif, mais c'est aussi un acteur économique. C'est 500 000 de salaires réinjectés dans l'économie locale et encore plus par rapport aux gens qu'on accueille. C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent principalement à 95% le quartier politique de la ville, donc Terre Rouge, soit les quartiers dits en veille, ouais, que sont les Badernes, le Sainte-Valérie ou le quartier des Escales.
Ça veut dire quoi, en veille? En veille, on les surveille,
Non, c'est par rapport à des critères qui font qu'il y a une action prioritaire de la part de l'État. Aujourd'hui, Terre Rouge valide tous ces critères, qui sont des critères administratifs, de taux de précarité, etc. Les autres ne le valident pas forcément, parfois sur des critères administratifs, pas assez de population. C'est le cas, de Sainte-Valérie, parce que le taux de précarité à Sainte-Valérie est très important aussi. Donc ça, c'est pas le critère social qui a joué le fait qu'ils ne sont pas... dans QPV, c'est vraiment un critère administratif.
Céline Delsahu, vous êtes ici depuis combien de temps?
Depuis 2001.
Donc 20 ans cette année.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé entre le début dans votre métier et maintenant, en fait, quand on y pense? Est-ce qu'il y a un peu plus d'accompagnement, par exemple, qu'il n'y a eu en 2001, pardon, ou est-ce qu'au contraire, on est obligé parfois, je ne vais pas dire de sacrifier, mais on n'est pas face aux mêmes problématiques qu'avant? Cole.
Oui, faut bien réfléchir. Ce qui a changé, oui, la partie économique a pris plus de poids, mais inévitablement. Le part économique, on se sentait beaucoup plus action sociale. Aujourd'hui, on sent la part économique, on est à 50-50. Mais c'est inévitable. Il faut que la structure puisse vivre. Elle a connu des moments beaucoup plus difficiles, je pense financièrement, même si ce n'est pas mon domaine. Et voilà, à un moment donné, il fallait rétablir pour qu'aussi l'action sociale puisse continuer à perdurer. Sinon, on n'aurait pas pu continuer. Après, ce qui a changé, c'est le public. Le public bouge, change. Les difficultés sont pas toujours les mêmes et ont évolué en fait en fonction de différentes choses. On avait au démarrage quand on a à RERTR, on avait beaucoup de gens en effet non alphabétisés ou illettrés. Aujourd'hui, dans les chantiers, en tous les cas où le public qu'on accompagne, on a moins de ce public-là. On le côtoie encore, nous, par rapport à nos ateliers de formation, mais moins, quand même beaucoup moins dans nos ateliers de travail. Et c'était beaucoup un public maghrébin sur le quartier. Aujourd'hui, on a une diversité de nationalités. Je pense que Julien pourrait dire combien, je ne sais plus. Mais
En 2020, j'ai calculé, on avait 14 nationalités différentes.
Quand même.
Donc c'est un vrai...
C'est un quartier riche, hein?
C'est une vraie richesse.
C'est un vrai melting pot de culture aujourd'hui qui s'entremêle. Et je pense que nos activités, nos prestations doivent refléter aussi cette culture-là. C'est pour ça qu'on essaie de tirer vers de la cuisine du monde, de proposer des plats qui peuvent se faire au-delà du quartier politique de la ville. Mais on les retrouve ici.
Moi, je voudrais que l'on parle aussi d'un truc intéressant dans votre association chez RERTR. Oui, vous accompagnez pour une insertion professionnelle, mais chez vous, ça ne se résume pas forcément à apprendre un métier. Je sais que vous faites, par exemple, des séances de sport collectif, par exemple. Pourquoi ?
Oui, alors du coup, ça correspond un petit peu à ce que je vous parlais dans une première partie, là. C'est tout ce qu'on appelle accompagnement social. Être bien dans sa peau, dans son corps, ça va permettre aussi de s'insérer durablement dans un milieu professionnel. On part de ce principe-là. Donc les ateliers sport font par exemple partie de notre programme santé. En fait, on a quelques mois que l'on consacre sur nos ateliers collectifs à la santé, où on fait intervenir différents personnels de santé comme une diététicienne, des thérapeutes stress, mais aussi la Ligue contre le cancer, ou voilà, des choses qui sont pour nous importantes, une sage-femme également. Et on a inclus dans ce programme-là aussi une activité sportive régulière, une heure par semaine de sport, de gym douce, mais aussi une heure de yoga. Parce que ce sont deux thèmes qui nous paraissent importants. Le public qu'on accueille, ce n'est pas quelqu'un qui se consacre beaucoup de temps à lui. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup, je dirais, avaler par la vie quotidienne, par les enfants, par les charges, par plein de choses qui sont plutôt difficiles à gérer, mais qui ne prend pas de temps pour lui. Et là, on essaie en fait de montrer par une action quotidienne que ce temps-là qui est pris n'est pas du temps perdu. On se sent mieux par la suite, on reprend sa vie en main, on reprend son corps en main, et on est plus apte après à faire des choses plus durables et plus pérennes. L'idée, ça serait que par la suite, à la suite des 24 mois, eh ben, pour les dames, puisque c'est essentiellement des dames qu'on accueille sur ces ateliers, aient envie de poursuivre dans une activité sportive et qu'elles aient retrouvé l'intérêt de faire quelque chose. Voilà.
Est-ce que la majorité des personnes que vous avez eues il y a 20 ans sont encore ici, au quartier de Terre-Rouge ? Est-ce qu'elles sont encore elles se sont intégrées professionnellement ? Est-ce que vous avez donc en gros des suivis ?
Alors, les suivis, en fait, ça reste le bon vouloir en fait de la personne. On n'est pas tenu en fait de poursuivre. Par contre, on a beaucoup de retours. Oui, on a beaucoup de retours.
De toute façon, vous devez les croiser dans le quartier.
On les croise, elles refont appel à nous par la suite. Alors, même si on n'a pas ce devoir d'accompagnement au-delà des 24 mois, le public, les personnes reviennent vers nous. Reviennent parce qu'elles ont un petit souci, parce qu'au contraire, elles ont des bonnes nouvelles. Voilà, elles reviennent quotidiennement et puis on les croise. On vit dans ce quartier, donc pour les gens qui sont encore dans le quartier, en effet, je continue à les croiser, je continue à avoir des nouvelles et puis il y a de très belles réussites, hein. Il y a vraiment de très beaux parcours.
Julien Bastide, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, effectivement, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais on revoit souvent des personnes qui viennent nous annoncer où elles en sont, qui ont des besoins un petit peu de reprendre parfois un petit CV parce qu'elles s'en vont, c'était le cas de la semaine dernière, où elles interrompent carrément une réunion d'équipe pour qu'on puisse relire son CV. Ça fait partie, je crois, de l'histoire de l'association. On est très content de les revoir, même si c'est dans des temps improbables. Mais ces parcours-là, après, ils sont... Ils reflètent aussi le travail quotidien, et ce qui fait qu'on est, je pense, content de faire le travail qu'on fait. Mmh. C'est qu'il y a ce lien-là, il y a l'accompagnement, il y a le fait qu'on les revoit derrière et qu'on se dit, voilà, même si ça a été 2 ans, ça a été 2 ans qui ont été importants, où les gens se sont révélés, les gens, parce qu'après c'est les gens qui ont les clés, hein, donc nous on ne fait que les accompagner, on est là pour 2 ans, donc il faut qu'ils soient autonomes.
Accompagner, vous apprenez quand même, et je parle surtout d'ailleurs pour les accompagnatrices et accompagnateurs, je ne sais pas s'il y a des hommes dans votre équipe.
Si.
Il y en a quand même, donc accompagnateurs et accompagnatrices. Oui. Vous êtes aussi très souvent face au découragement de ces personnes, de leur situation personnelle, de cette situation d'échec qu'elles ont pu peut-être subir, et là vous êtes en train de les remotiver pour leur dire non, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, mais ça doit pas être évident. On parle par exemple de cet atelier exercice physique, des gens qui peut-être n'ont jamais fait de sport en plus.
Tout à fait. Alors qu'ils n'ont jamais fait de sport, parfois qu'ils n'ont jamais mis de tenue de sport.
En plus.
De toute façon, la tenue de sport, elle a une symbolique. Ils ne sont jamais entrés dans une salle de sport parce qu'on a beaucoup de chance, puisque ce sport, en fait, on le fait dans des locaux professionnels. Donc on a la chance, le Grand Cahors nous met à disposition des locaux, ce qui est formidable. Voilà. Et donc tout ça, oui, non, c'est pas évident. Après l'échec ou se rendre compte des difficultés, encore là, quand on est de ce côté-là, on est plutôt là pour les motiver, pour les amener vers des moments meilleurs. Donc on est quand même placé du bon côté de la barrière. Mais l'accompagnement, ça passe aussi par d'autres choses, par l'effet inverse aussi. Ça nous demande parfois de montrer aux personnes que la corrélation entre ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent et ce qu'elles sont ne correspond pas. Et ça, c'est plus, à mon avis, c'est ce qui est plus difficile. Puisque là, en fait, on est plutôt dans la douleur et on amène d'abord un moment difficile pour amener du meilleur. Et ça, c'est, à mon avis, assez compliqué.
Donc, c'est une vraie reconstruction personnelle et professionnelle. Enfin, surtout personnelle, d'ailleurs, puisque le professionnel ne vient qu'à la suite de ça.
Tout à fait. Enfin, chez nous, en tous les cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Parce que autrement, il est, à notre avis, voué à l'échec. Mettre en situation professionnelle et après devoir gérer des difficultés sociales, ça ne peut pas fonctionner.
Pour terminer cette émission, Julien Bastide, quels sont les projets pour RERTR ? Je vous ferai remarquer que depuis le début de l'émission, je n'ai pas mélangé les lettres. Hein. Donc, il y a des efforts. Hein.
Okay. C'est bien. Alors, des projets, il faudrait peut-être 20 minutes de plus. Mais on va commencer par les...
On en refera une dans ce cas-là d'émission.
Il y a un projet, un prolongement d'un projet qu'on a, qui est l'épicerie sociale et solidaire, puisque en 2022, on va ouvrir une épicerie sociale itinérante, dont l'objectif sera d'aller apporter une aide alimentaire et un accompagnement à des personnes qui sont dans le territoire rural, hein, que ce soit dans toute la zone sud de Lot.
Ça, c'est pour quand ? Ça, vous avez une idée ?
C'est pour 2022, début 2022. Là. On cherche des locaux, d'ailleurs. On cherche d'entrepôt où on pourrait justement y stocker l'aide alimentaire qu'on va proposer ensuite à travers ce nouveau chantier-là. C'est un chantier aussi qui va amener des emplois supplémentaires. Donc on va avoir, au-delà des travailleurs sociaux, on va avoir aussi deux préparateurs de commandes et un nouveau chauffeur-livreur. Donc on va passer à 29 salariés en parcours d'insertion l'année prochaine. Et même 31, puisque la blanchisserie va augmenter ses effectifs avec deux personnes supplémentaires à horizon de l'été prochain pour lui permettre d'avoir deux équipes et un roulement qui va nous permettre de passer au moins le Tour de France.
Voilà, ouais, c'est clair. Il faut y penser à ça. Et vous recrutez en ce moment une accompagnatrice ou un accompagnateur socio-professionnel, tout simplement.
Oui, on cherche un binôme à Céline aussi pour accompagner les personnes qu'on accueille dans les chantiers d'insertion. Donc voilà, c'est une partie 80% d'accompagnement, mais toujours une partie, ce qui est une spécificité de l'association, aussi d'encadrement de l'atelier cuisine, c'est-à-dire qu'on met les mains dans la farine avec les gens. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une relation un peu particulière, je crois, après, dans l'accompagnement, et qui permet de ne pas voir l'accompagnement uniquement avec une barrière qui est le bureau. Donc là, il n'y a pas de barrière. C'est, chacun est en sable à l'atelier.
Et ben dans cette émission, nous allons suivre toutes les associations qui ont un rôle dans cette politique quartier de ville, et notamment donc à Terre Rouge et l'association RERTR. On va vous suivre, hein, on va continuer à venir vous voir, on va aller voir vos ateliers, on va aller voir aussi ces personnes qui en bénéficient, suivre leur parcours. C'est très intéressant de savoir effectivement qu'on peut. Enfin, c'est même très motivant d'ailleurs pour des personnes qui peuvent se sentir en situation d'échec professionnel, d'être remontées comme ça et d'être revalorisées. En fait, Céline, c'est ça, vous les revalorisez.
On va chercher toute l'énergie qu'il y a en eux, en fait. Je crois que c'est cette énergie-là qu'ils n'ont plus connaissance, et ils n'ont plus l'impression d'avoir toute cette énergie en eux. Pourtant, elle est là. On va juste aller la chercher, la remettre en avant. C'est que des ressources personnelles que les gens ils ont. Nous, on ne fait que les accompagner.
Eh bien, nous irons voir ça de plus près. Merci, Céline Delzahu. Voilà, je l'ai bien dit, hein.
Oui.
Bon, merci, Julien Bastide.
Merci.
Et à très vite pour un prochain numéro concernant la politique quartier de la ville sur CFM Cahors.